On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir, merci d'être resté, mon cher Jean-Claude.
Mais c'est un plaisir.
Guylaine Ottenheimer est avec nous, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir à vous. Et Amine El-Khatmi qui rigole, président du Printemps Républicain. Bonsoir Amine, ravi de vous retrouver tous les trois pour nous, notre petit menu de Punchline. Allez, on va peut-être commencer par allez, Renaud Muselier, Les Républicains. On commence. Qui était ce matin l'invité d'un de nos confrères et qui a dit à la stupéfaction générale que si Éric Ciotti, qui est candidat à la primaire LR, était désigné, eh bien tout simplement, il claquerait la porte des Républicains. Écoutez.
Si Éric Ciotti l'emportait à la primaire, vous faites quoi ?
Ah mais moi je quitterai immédiatement le LR. Je démissionnerai immédiatement. Je quitterai ma famille politique. Ça voudra dire que je suis minoritaire, que ma famille politique a décidé de mettre en place quelqu'un qui a plus de la droite, de l'extrême droite. Bon, tous ceux qui veulent un avenir pour la droite, tous ceux où on a une expérience de gestion, de savoir-faire, et pas de haine, de rejet, d'antipathie, de mesquinerie, de méchanceté, de trahison. C'est j'en ai au milieu des traîtres là quand même. Donc de toute façon la seule chose qui compte, il faut bien le savoir, c'est que Monsieur Ciotti, chaque fois qu'il soutient quelqu'un, il perd.
Monsieur Muselier est le petit télégraphiste d'Emmanuel Macron. Voilà, il soutiendra Emmanuel Macron. Renaud Muselier, il avance masqué, mais en réalité, comme certains de ses amis au sud qui sont déjà passés dans le camp d'Emmanuel Macron, il est totalement macronisé.
Voilà, pour l'ambiance chez les Républicains, entre Renaud Muselier, Éric Ciotti, Guylaine Ottenheimer, les noms d'oiseaux fusent, traîtres, petit télégraphiste d'Emmanuel Macron, ça promet hein, pour la primaire.
Quelle famille, hein, ils n'ont pas besoin d'ennemis.
C'est sûr.
Bon, Ciotti a aussi donné des verres pour se faire fouetter en disant que si jamais Zemmour était au second tour, il voterait pour lui, enfin... On est loin de là, il n'y a pas besoin de dire ça, tout ça pour récupérer des voix de Zemmouristes. Enfin, on est quand même dans un petit jeu où tout le monde dit des bêtises, des stupidités. Et moi, je serais Muselier, je veux dire, vraiment, à quelques jours d'un congrès où le maître mot, c'est le rassemblement, on va s'écouter, on va se respecter. Il n'avait pas besoin de faire cette sortie. Il suffisait de dire, il y a peu de chances quand même que Ciotti soit choisi, donc je ne réponds pas à la question, plutôt que déverser.
Mais c'est les tontons flingueurs, là.
Ils ont habité côte à côte pendant des années. Alors, il y a un petit territoire qui leur échappe. Ils ont gagné une élection, ils leur ont piqué un mec. Bon, voilà, ils sont très mal partis parce que s'ils n'arrivent pas à avoir un peu plus d'élan que simplement se flinguer entre eux, je veux dire, voilà, déjà, ils sont pas très hauts dans les sondages, mais vous avez une occasion de se rassembler là le 4 décembre, mais on voit qu'on est loin
ils
du
sont
compte.
À touche-touche. On parlait de gauche irréconciliable et des droites irréconciliables, désormais, Jean-Claude Dacier.
Je crois que la droite, tout doucement, est en train de s'asphyxier dans des rivalités internes, dans des querelles d'égo et puis aussi dans des querelles de ligne. Je ne sais pas ce qui sortira du vote des militants qui ont l'air d'augmenter. Ils étaient 80 quelques mille, on les annonce aujourd'hui à 100 000. Je ne sais pas qui sortira vainqueur de cette historique confrontation. Ce que je pressens, c'est que une partie des gens aujourd'hui qui sont restés au sein des Républicains rallieront Macron. Pour les plus malins, avant la présidentielle, pour les plus prudents, après la présidentielle. D'autres iront peut-être garder la vieille maison, et la troisième iront rejoindre Zemmour, ou ce qui restera du Rassemblement national. Si, comme je le pense, Marine Le Pen disparaît, si elle est de nouveau battue, elle devra quitter probablement la scène, et ce jour-là, des choses probablement seront possibles à droite, ou en tout cas au Rassemblement national, repris par Zemmour ou par quelques-uns de ses amis ou à ses côtés. Donc on est encore dans un processus, comme disait l'autre, la poutre continue de travailler. C'est fini. Je pense que la grande droite qu'on a connue il y a quelques années, qui avait su rassembler à ses côtés une partie du centre, cette droite-là meurt tout doucement. Macron a piqué déjà une bonne partie de ses électeurs et un certain nombre de ses adhérents, pas parmi les plus mauvais. Bon, un ministre de l'Intérieur, il y a Edouard Philippe, etc. Et ce n'est donc pas terminé. Mais tant que, à mon avis, tant que Marine Le Pen est là, c'est pour ça que la primaire à droite est intéressante, mais encore plus intéressant est la primaire à gauche. Le choc très violent, et qui s'annonce, et qui est déjà très violent, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, je ne sais pas...
À gauche ? Non, à droite, oui.
Rassemblement national. Je pense que c'est à ce moment-là que les choses se dénoueront. Je pense que Marine Le Pen, si elle doit... être deuxième, et si elle est de nouveau battue dans la présidentielle, elle devra céder la place, Et là, cette droite-là se reconstituera.
Amine El Khatmi, comment ces deux personnes que sont M. Muselier et M. Ciotti peuvent être dans le même parti? C'est vraiment la question.
Ben, c'est ce qu'on se demande, en fait. C'est qu'ils n'ont plus rien à faire dans le même parti. Ils y restent parce qu'ils ont tous des intérêts pour des investitures, des logos, mais ils n'ont plus rien à faire. Enfin, on se souvient de l'épisode des régionales où M. Muselier avait été convoqué devant une espèce de tribunal politique à Paris à la demande de Ciotti, qui il rend la monnaie de sa pièce là aujourd'hui, parce qu'il avait envisagé d'accueillir Mme Cluzel, la secrétaire d'État, et quelques élus macronistes sur sa liste. On se souvient de l'épisode chez M. Rottner, qui n'avait pas voulu de Nadine Morano, qui avait fait tout un scandale avec le talent qu'on lui connaît. Ils sont d'accord sur rien. Certains avaient refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la dernière présidentielle, quand d'autres appelaient au Front Républicain. Vous en avez qui disent, nous, Macron-Zemmour, on vote Zemmour, et d'autres qui disent, mais c'est horrible, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est une maison qui tient des gens qui ont des intérêts parce qu'ils ont des strapontins et des gens à placer, mais ils ne produisent rien, ils ne pensent rien, et quand ils pensent quelque chose, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont pensé. Tout ça est...
Ils ne pensent rien, non, parce qu'ils articulent tous leur programme en ce moment, Amine. Vous parlez des deux en question.
Je parle de l'appareil en tant que tel, du parti. Un parti, c'est aussi fait pour produire des idées. Mmh. Là, oui, vous avez des propositions de Pécresse, de Bertrand, des uns et des autres, mais ils ne sont plus d'accord. Et on voit bien que la décomposition des deux grandes vieilles formations politiques, qui étaient l'EPS et l'UMP, RPR, LR, va s'achever avec cette présidentielle.
Guylaine, vous voulez rajouter quelque chose?
On voit bien à quel point ce parti est en voie de déliquescence. Je veux dire, c'est absolument pas normal que les deux principaux protagonistes de cette primaire aient quitté le parti et reviennent en prenant leur carte. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, c'est très bien. Chaque candidat a fait une proposition, le SMIC augmenté de je ne sais pas quoi, les salaires augmentés de je ne sais pas quoi, un peu plus de policiers, voilà. Mais ce n'est pas ça un travail de parti. Tous ces gens auraient dû être ensemble, avec des conventions, avec les syndicats, avec des think tanks, avec des philosophes, etc. Travailler la matière, se mettre d'accord, parce qu'il n'y a plus de lien. Si vous avez juste des personnalités et puis vous avez plus de corpus idéologique, eh ben c'est juste, comme vous le disiez, les petits intérêts. Moi, je veux telle investiture. Ah non, ce canton, il est à moi, parce que j'en ai besoin pour être ensuite élu président du département. Donc voilà, ça, et ils vont finir, comme on disait, dans une cabine téléphonique, si ça continue comme ça. La seule interrogation qu'il y a, c'est l'après-Macron, Édouard Philippe. Voilà. Et parce que c'est une personnalité qui est suffisamment forte pour rallier cette famille centre-centre-droit. Il n'y a personne à gauche pour reprendre la famille Macron. Donc voilà, est-ce que lui pourra reformer un corpus, etc., qui ne sera pas juste une dérive de la droite républicaine vers l'extrême droite?
Pas faux.
La seule situation qui pourrait leur redonner un peu d'oxygène, c'est que le candidat qui sera désigné par le Congrès des Républicains au mois de décembre, que ce candidat, que ce soit M. Barnier ou que ce soit M. Bertrand ou un autre, soit en piste face à Macron au deuxième tour de la présidentielle. Là, je veux bien croire que la droite dite légitimiste, dite traditionnelle, celle qu'on a connue depuis des années, retrouvera un peu de couleur, même si le candidat en question est battu, ce qui est possible mais ce n'est pas certain, même si le candidat est battu, je pense que ça pourrait redonner un peu d'espace et de légitimité à cette droite-là. Mais il y a encore quelques obstacles à franchir.
Ce qui paraît extraordinaire par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui, en se disant, mais que font-ils dans le même parti? C'est qu'il y a quelques années, et pas il y a 30 ans, il y a quelques années, il y a un parti qui s'appelait l'UMP, qui a réussi à mettre dans la même maison des centristes, des libéraux, des souverainistes, des amis de M. Séguin,
des
gaullistes, de la droite sociale, enfin bref, des gens qui représentaient les diverses nuances de la droite, mais qui avaient arrivé à s'entendre parce qu'il y avait un chef, et on sait que la culture du chef à droite, beaucoup plus qu'à gauche, est importante, quand il y a un leader, on le suit, et puis il y avait une conquête du pouvoir, et là, ils n'ont ni chef, ni conquête.
Ils tentent la conquête.
Absolument,
à tout ça. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Et pourtant, le paradoxe, c'est que 37% des électeurs se placent à droite de l'échiquier politique aujourd'hui dans notre pays. C'est un chiffre en augmentation. C'est une étude Fondapol, opinionnée pour le Figaro. On en débat dans un instant dans Punchline sur Europe 1. À tout de suite.